Bonjour, nous sommes de la radio du lycée français et nous sommes ravis de vous recevoir. Nous allons vous poser quelques questions. Comment avez-vous décidé de commencer à écrire ?
C'est pas facile de répondre parce que c'est pas quelque chose que vous décidez du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que vous décidez comme d'acheter une voiture ou de commander un plat au restaurant. Souvent, vous avez envie d'écrire, vous écrivez des petites choses. Et puis, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous avez, depuis des semaines, un manuscrit qui avance et que peut-être ça va devenir un livre. Enfin, tout ça est tellement progressif qu'il n'y a pas vraiment un moment où on décide je vais commencer un roman. Souvent, c'est plus confus et ça émerge dans votre vie de manière parfois un petit peu chaotique, un peu spontanée, quoi.
Quels sont les endroits où vous aimez écrire ?
Quand je parle de mon métier, je ne vais pas vous faire rêver beaucoup. Alors, il y a des écrivains, c'est épatant, ils disent « moi, je ne peux écrire que dans des conditions très particulières, très spéciales. » Alors moi, je ne fais pas rêver beaucoup puisque j'ai un bureau chez moi, la maison. J'ai deux maisons, hein, une maison à la campagne puis une maison en ville. Dans les deux maisons, j'ai un bureau, j'ai un ordinateur. J'écris toutes mes notes sur des carnets. Globalement, un roman de 500 pages va générer à peu près 300 pages de notes manuscrites, des choses auxquelles je dois penser sur les personnages. Et le reste, l'écriture elle-même du roman se fait sur ordinateur. En fait, je me mets au travail le matin. J'ai une fille qui a 13 ans. Je vais la chercher à l'école à 4h30, donc je m'arrête de travailler, puis je recommence le lendemain. Franchement, je ne vais pas vous faire rêver beaucoup sur mes habitudes d'écriture.
Comment choisissez-vous les sujets que vous abordez ?
Je cherche beaucoup. Je cherche des idées. Je les pose sur le papier. Quand j'ai une idée qui me semble intéressante, la première question que je me pose, c'est pas tellement quelle histoire j'ai envie de raconter que, tiens, j'ai une idée d'histoire, à quoi ça sert de la raconter? En fait, quelle est la différence entre un bon livre et un livre médiocre? Selon moi, encore une fois, je ne vais pas faire une théorie, je crois qu'un bon livre, c'est un livre qui raconte quelque chose au-delà de l'intrigue des personnages. Vous avez des personnages qui agissent, ils mènent une aventure. Si l'aventure ne raconte que ça, vous avez souvent un livre très plat, un livre assez médiocre. C'est intéressant, ce que font les personnages va poser des questions au lecteur sur lesquelles il va avoir envie de réfléchir ou qui vont l'émouvoir. Enfin, bon. Et donc, je n'arrête pas une idée de roman, un projet de roman, tant que je ne suis pas sûr que ça vaut la peine de l'écrire, que c'est pas simplement une histoire qui va raconter l'histoire de deux personnages. Alors pour ça, j'essaye une idée, j'en essaye une autre, j'en essaye une troisième, puis au bout d'un moment, je me rends compte que mon esprit tourne tout le temps autour de la même idée. C'est une espèce de germe, vous voyez, comme ça, un truc qui germe petit à petit, puis au bout d'un moment, vous dites, bon, jamais, ça fait quand même 2 mois que je pense tout le temps la même chose. Alors c'est certainement cette idée-là qui va finir par devenir un roman, quoi.
Dans une de vos interviews, vous dites être en colère et écrire car le monde ne vous plaît pas. Dans vos romans, il y a beaucoup de violence. N'est-ce pas rendre le monde encore plus sombre ?
Oh, je ne pense pas que des livres créent de la violence. La façon dont vous posez la question supposerait qu'en créant de la violence dans le roman, je crée de la violence dans la société. Enfin, je ne pense pas, si vous voulez, que mon but, mon objectif ou ce à quoi je parviens, ça soit de générer de la violence. C'est plutôt des réactions par rapport à la violence. C'est-à-dire que quand j'ai un petit garçon qui se défenestre, c'est pas pour le plaisir de le voir tomber que je le fais. Ce que je veux faire, c'est que vous vous disiez pourquoi un enfant de 12 ans peut avoir envie de se jeter par la fenêtre. Et je vais mettre 500 pages pour vous faire réfléchir à cette question jusqu'au moment où vous allez comprendre la raison pour laquelle il l'a fait. Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir créé de la violence gratuitement et d'avoir généré de la violence. J'ai l'impression d'avoir posé un fait violent pour vous amener à réfléchir à un problème, qui est le problème de l'enfance. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'enfance violée. C'est un petit garçon qui a été violé et qui a envie de mourir. Mais vous voyez, si je vous dis ça, je vais pas vous émouvoir. Je vais vous émouvoir à la condition que je vous montre ce petit garçon dans une situation difficile. Et si, au bout de 200, 300, 400 pages, vous dites « Ah !» Je crois comprendre pourquoi ce petit garçon est si intensément malheureux. J'ai l'impression que la violence que j'ai générée, elle était plutôt utile à votre réflexion, plutôt qu'elle n'a été néfaste.
En 2013, vous avez eu le prix Goncourt pour Au revoir là-haut. La réception de vos œuvres a-t-elle influencé votre écriture ?
Oui, mais peut-être pas dans le sens que suppose votre question. Ça a influencé de deux manières. Ça m'a conforté dans mon projet littéraire. Mon projet, c'est de feuilleter le XXe siècle dans une dizaine de livres. Et le prix Goncourt m'a donné un peu plus d'assurance dans ce projet. Et donc, d'une certaine manière, ça a eu un effet très, très positif. Ça n'a pas changé la manière d'écrire, mais c'est une reconnaissance qui fait que vous doutez un peu moins de ce que vous faites. Vous voyez, pendant très longtemps, vous dites, bon, j'écris des livres, mais est-ce que franchement, ça vaut la peine de faire tout ça? D'un seul coup, cette reconnaissance-là, vous avez le prix le plus prestigieux de la littérature française, ça veut dire que le monde environnant est en train de vous dire ce que vous faites a de la valeur. Donc, d'une certaine manière, ça vous conforte. Donc, je ne crois pas que ça ait changé beaucoup ce que je fais, mais ça m'a donné un petit peu plus de confiance, quoi.
Pensez-vous au cinéma quand vous écrivez?
Non, je n'y pense jamais. Je ne pense pas qu'on puisse faire un bon livre en pensant écrire un film. Voyez, soit vous écrivez un film, soit vous écrivez un livre, mais je ne crois pas beaucoup au mélange. Il y a un moment pour écrire un livre, et puis il y a éventuellement un moment pour l'adapter. Mais je ne pense jamais au cinéma. En revanche, j'ai une manière d'écrire qui est très visuelle et qui fait croire un peu que je pense au cinéma. Mais simplement, c'est parce que je ne peux pas écrire un chapitre, une scène avec des personnages sans l'imaginer, sans me la projeter sur mon écran intérieur. Et donc, il y a une espèce de fausse ressemblance avec le cinéma qui justifie certainement la question que vous me posez. Mais moi, dans l'écriture, je me dis jamais, tiens, ça ferait une belle scène au cinéma. Ça m'est jamais arrivé.
Certains de vos personnages reviennent comme dans La Comédie humaine de Balzac. Est-ce l'une de vos sources d'inspiration?
Alors, le modèle de Balzac, oui. Balzac en soi n'est pas une source d'inspiration, mais c'est une source d'admiration, mais pas d'inspiration. Mais par contre, la construction de La Comédie humaine m'a bien aidé à comprendre de quelle manière je pouvais moi-même construire ma somme littéraire. Donc sur ce plan-là, j'ai envie de dire oui, absolument.
Quel conseil donnerez-vous à un jeune en herbe?
N'écoutez pas les conseils des autres, parce que les autres vont simplement vous dire comment ils ont trouvé leur solution, mais ce n'est pas une solution pour vous. Chacun doit inventer son chemin. Si vous avez envie d'écrire, j'ai envie de vous dire, essayez de vous faire confiance, travaillez. Essayez des choses, corrigez, jetez le papier, recommencez. Si vous êtes vraiment un écrivain, vous allez le savoir très vite. Mais n'essayez pas d'imiter les leçons des autres, les recettes des autres, ça marche jamais. L'expérience des autres, c'est un peigne pour les chauves.
Comment vous décidez comment finissent vos livres?
Je le décide au début, avant de commencer. Je ne commence pas un livre sans savoir comment il va finir. Ce que je ne sais pas, c'est comment je vais arriver à cette fin. Mais je sais ce qui va arriver à la fin, sinon je commence pas. C'est comme si vous me disiez, quand vous prenez le train, est-ce que vous prenez le train sans savoir où vous allez? Ça m'est jamais arrivé. Les circonstances dans lesquelles on prend le train sans savoir où on va sont quand même assez rares. Hein. Il faut quand même être très désespéré ou dans une situation très particulière. Mais la plupart du temps, vous savez où vous allez. Et ben c'est pareil pour un roman. Moi, j'arriverais pas à me projeter dans une histoire si je savais pas globalement comment elle va finir. Donc je démarre pas si je sais pas la fin.
Est-ce que ça vous dérange lorsque, par exemple, dans les adaptations au cinéma et tout ça, ça enlève cette vue d'imagination à votre lecteur, parce que ça donne déjà toute...
Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, ça m'embête. J'aimerais tellement que les gens lisent le livre avant de voir le film et ne fassent pas l'inverse. Parce que vous comprenez, à partir du moment où vous avez vu le film, le personnage, il a le visage de l'acteur ou de l'actrice qui est sur l'écran. Et quand vous allez lire le livre, vous ne pourrez pas empêcher votre cerveau de plaquer sur mon personnage quelque chose qui n'est pas mon personnage, qui est celui du film. Et vous vous privez de quelque chose qui fait le fond de la littérature, c'est que le lecteur refabrique l'histoire qu'on lui raconte. Ici, on est là une douzaine à discuter. Si vous aviez lu le même livre et que vous me le racontiez, vous me parliez d'un personnage, chacun le dessinerait différemment. Il n'y en a pas un seul de ces personnages qui ressemblerait au voisin. C'est la magie de la littérature. C'est que chacun va refabriquer l'histoire en fonction de la manière dont il l'a perçue. Voilà. Et le cinéma fige tout ça en vous disant, voilà, Madeleine, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et après, quand vous allez lire le personnage de Madeleine, votre esprit ne peut plus refabriquer un autre personnage. Il a définitivement la tête de l'actrice qui a joué le film. Donc, ce que je regrette, c'est que les gens fassent souvent le chemin inverse. Ils vont voir le film, et puis si le film leur a plu, ils vont lire le livre. Et du coup, c'est mon livre qui les déçoit, alors que ça devrait être le film.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.